dans 20 minutes, suivi de notre grand invité international ce jeudi, l'ex-commissaire européen Thierry Breton. Il répond aux questions d'Arnaud Pontus à partir de 7h15 à 8h15 également. Avec nos invités, on va revenir sur cet accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza officialisé hier. Le politologue Hesni Abidi notamment nous livrera son analyse. Restez avec nous. Avant cela, avec le professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'université de Genève, Didier Péclard, on revient sur la visite du président João Lourenço en France pendant 2 jours. Pourquoi cette visite? Élément de réponse dans 2 minutes, mais d'abord le sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
Le CHAN 2025 ne se tiendra donc pas en février, mais la Confédération africaine a tenu à organiser le tirage au sort de la compétition.
Cérémonie qui s'est tenue à Nairobi, au Kenya, avec des Kenyans versés dans le groupe A, avec le Maroc, l'Angola, la RDC, la Zambie, autre pays organisateur, la Tanzanie qui affrontera Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la Centrafrique. Enfin, l'Ouganda, troisième pays hôte de ce CHAN, a hérité d'un groupe en pointillé avec le Niger, la Guinée et 2 pays à déterminer issus de nouvelles qualifications. Quant au tenant du titre, le Sénégal, il a été placé dans le groupe D avec le Congo, le Soudan et le Nigeria. Un CHAN qui se disputera en août 2025, a annoncé la CAF dans un communiqué. Le temps de parfaire l'organisation, estime Sedou Mbombo Njoya, le président de la commission d'organisation du CHAN.
C'était un report d'abord simplement pour rendre les choses plus faciles pour les pays organisateurs en question, parce qu'en réalité, ils ont fait des efforts incommensurables. Il faut rendre hommage à ces 3 pays hôtes qui ont mis des moyens, leur gouvernement bien sûr aussi, pour se doter d'infrastructures sportives de qualité. Nous voulons faire les choses bien et on se donne un peu de temps pour que les choses soient parfaites. Vous n'êtes pas allé dans la précipitation. C'est un report qui mettra à l'aise tout le monde et qui permettra aux différents pays d'être vraiment fin prêts. Et il faut savoir que ces 3 pays organisent également derrière, en 2027, la Coupe d'Afrique des Nations, la Grande CAN que tout le monde attend. Donc nous devons faire les choses méthodiquement. Nous avons fait des visites sur le terrain et on a constaté qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits. Et il faut donner juste un dernier coup de pouce pour y arriver.
C'est Sedou Mbombo Njoya avec Alban Tiroir.
En handball, l'Égypte marque les esprits d'entrée de jeu au mondial masculin.
Champion d'Afrique en titre, les Pharaons ont surclassé l'Argentine 39 à 25. Les Égyptiens, 7e du dernier championnat du monde. Quart de finaliste aux Jeux Olympiques de Paris, entrent donc de la meilleure des manières dans la compétition, en collant à leurs ambitions élevées. Que rappelle Mohamed Sanad, l'ailier de Nîmes, meilleur buteur de l'équipe avec 6 réalisations.
C'est très bien de gagner le premier match du championnat du monde. C'est très important de gagner le premier match, ça donne la motivation pour la suite. On était concentré pour gagner ce match parce que ça peut être un match piège. On sait très bien que l'Argentine c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui court beaucoup, qui fait beaucoup de duels, qui est très agressive. Et on a dit qu'il faut dès les premières minutes qu'on soit fort, qu'on fait pareil, comme ça on ne tombe pas dans le piège et après... Ça allait très bien, on a défendu, on a fait des contre-attaques pour tuer les matchs et je pense que c'était bien au final de gagner comme ça. Ça donne la confiance pour toute l'équipe.
Mohamed Sanad avec Marco Martins. Prochain match pour les Égyptiens, vendredi contre Bahreïn. Sort bien différent en revanche pour la Guinée qui s'est inclinée 40 à 23 face aux Pays-Bas. Ce jeudi, 3 nations africaines en lice. L'Algérie face à l'Italie, la Tunisie contre le Danemark et puis l'entrée en lice du Cap-Vert contre l'Islande.
Un mot de basket avec la soirée de NBA aux États-Unis et ça n'est pas courant cette saison. La Nouvelle-Orléans enchaîne.
2e victoire de suite pour les Pelicans, dernier de conférence Ouest qui se sont imposés 119 à 116 sur Dallas. Yves Missi, le Camerounais, y aura contribué avec 12 points et 6 rebonds.
Du tennis pour finir, 11 jabbeurs se hissent au 3e tour de l'Open d'Australie.
Sans perdre de temps, 1h27 à peine sur le court face à la Colombienne Camila Osorio. Victoire 7-5-6-3 de la Tunisienne pour qui la marche va s'élever grandement au prochain tour. Jabeur affrontera l'Américaine Emma Navarro, 8e joueuse mondiale.
Antoine Grenier, vous revenez tout à l'heure.
RFI Matin.
Sa visite démarre aujourd'hui à Paris. João Lourenço, président angolais, doit rester 2 jours et sera reçu ce matin par Emmanuel Macron. Une visite à la forte tonalité économique, mais destinée aussi à renforcer le partenariat politique entre la France et l'Angola. Au moment où la médiation angolaise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo traverse un trou d'air, Didier Péclard, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève, est notre invité ce matin. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Didier Péclard, bonjour.
Bonjour.
L'enjeu de cette visite de João Lourenço, il est d'abord politique ou économique ?
Oh, il est un peu des deux, bien sûr, mais disons sur le plan politique, ce qui est très important pour le joueur Lorenzo, c'est de continuer à se profiler comme un acteur important sur la scène africaine. L'Angola, depuis longtemps, cherche à être comme ça, cette puissance du milieu de l'Afrique, avec le Nigeria au nord et puis l'Afrique du Sud pour la partie australe. Et l'Angola, depuis la fin de la guerre en 2002, en fait, a fait beaucoup d'efforts pour se positionner comme un acteur important sur la scène africaine, ce qui sera encore renforcé cette année avec le fait que l'Angola prendra la présidence tournante de l'Union africaine.
Alors justement, côté politique, João Lourenço a essuyé un échec le 15 décembre dernier avec le refus du Rwandais Paul Kagame de se rendre à la conférence tripartite qui était prévue à Luanda avec le Congolais Félix Tshisekedi. Est-ce que João Lourenço ne va pas finir par se lasser d'essayer de faire médiation entre le Congo et le Rwanda?
C'est possible, effectivement, mais je crois qu'en même temps, c'est un enjeu très important pour l'Afrique et en tant que président de l'Union africaine, ce serait d'autant plus important d'arriver à obtenir un accord. Et en même temps, je pense que d'obtenir un succès, ce serait vraiment quelque chose qui lui donnerait une stature internationale importante et qui lui permettrait aussi de s'extraire des difficultés politiques et économiques à l'intérieur du pays. Donc je pense qu'il va continuer, c'est difficile bien sûr, mais je pense plutôt qu'il continuera.
Est-ce que João Lourenço a un intérêt politique ou économique interne à l'Angola au fait qu'il y ait la paix entre le Congo et le Rwanda ?
Pas directement, je pense, mais l'instabilité à l'est de la RDC peut avoir des effets négatifs sur un des projets phares actuels qui est le fameux corridor de Lobito dont on a beaucoup entendu parler lors de la visite de Joe Biden récemment en Angola. Et là aussi, bien sûr que la stabilité est importante pour la poursuite de ce projet.
Alors, vous l'avez dit, le corridor de Lobito est un enjeu économique très important pour le président angolais et Joe Biden, le président américain, l'a souligné lors de cette visite sur place le 2 décembre dernier. Est-ce à dire que l'Angola va s'éloigner de la Chine au profit d'une alliance avec les Occidentaux comme les États-Unis et la France ?
Je crois que ça fait partie d'une stratégie de long terme, en fait, que des pays comme l'Angola poursuivent. Les régimes angolais sont passés maîtres dans l'art de jouer leurs alliances respectives les unes contre les autres. Et je crois que le cas du corridor de Lobito s'inscrit tout à fait dans cette stratégie-là, c'est-à-dire que c'est d'abord un chemin de fer qui a été reconstruit grâce à des capitaux chinois et des entreprises chinoises dans les années 2000. Et à la surprise de tout le monde, au moment où le gouvernement angolais a octroyé la concession pour l'exploitation de cette ligne pendant 30 ans, ce n'est pas un consortium chinois qui a remporté la mise, mais un consortium plutôt occidental. C'est un bon exemple, je crois, de la façon qu'a le régime angolais de s'allier alternativement ou de pencher alternativement plutôt du côté occidental, plutôt du côté chinois, pour maintenir la pression sur ses différents alliés.
Donc, si les États-Unis et l'Europe veulent faire de l'Angola un rempart contre l'influence de la Chine, ils se bercent d'illusions ?
Oui, je crois, et l'Angola reste le principal partenaire économique et financier de la Chine en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de raison de penser que ça va changer complètement. Simplement, cette idée qu'on a pu avoir que l'Angola ou le gouvernement angolais se livrait pieds et poings liés à la Chine est fausse.
À l'heure où l'Afrique de l'Est est dominée par la présence chinoise, à l'heure où l'Afrique de l'Ouest est de plus en plus sous l'influence de la Russie, est-ce que l'Angola n'est pas l'une des dernières portes d'entrée en Afrique pour les Occidentaux ?
C'est possible, effectivement, et je pense que João Lourenço a tout à fait saisit cela et va jouer cette carte, mais tout en sachant bien que son propre intérêt ou l'intérêt du gouvernement angolais n'est pas de se mettre à dos ses partenaires chinois, bien au contraire, il s'agit de continuer à avoir une bonne relation. D'ailleurs, la dette envers la Chine est colossale, donc ne serait-ce que pour cela, il est important aussi que les canaux de communication et que l'entente avec la Chine continuent à être bonnes.
Lors de sa visite en Angola le mois dernier, le président américain Joe Biden a annoncé 600 millions de dollars supplémentaires pour construire le corridor de Lobito. Est-ce que Donald Trump va poursuivre la même politique ?
Il y a de fortes chances que ce soit le cas, effectivement, parce que c'est un lieu important de la concurrence globale entre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a fort à parier que cet investissement continuera, effectivement, et qu'en même temps, la compétition continuera également.
Didier Péclard, merci.
Le professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève, Didier Péclard, il répondait à Christophe Boisbouvier. Votre chronique matière première sur RFI, on parle ce matin des prix de l'uranium qui ont triplé depuis février 2020. Une augmentation qui rend désormais envisageable l'exploitation de réserves qui n'étaient auparavant pas rentables. Alors, Et c'est ce que montre une étude de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Progressivement, de nouveaux acteurs émergent et de nouvelles routes d'approvisionnement se dessinent, Marie-Pierre Olfan.
La hausse des prix de l'uranium est d'abord un moteur pour les producteurs historiques que sont le Kazakhstan, le Canada ou encore l'Australie, pour n'en citer que trois. Et puis, il y a les États dont les réserves oubliées ou délaissées deviennent, au prix actuel du marché, beaucoup plus intéressantes. Parmi ceux qui se réorganisent, on peut citer le Brésil, qui a lancé en 2022 un grand programme de prospection et d'exploitation. Une seule mine est pour l'heure en activité, mais les réserves identifiées seraient énormes, on parle de 300 000 tonnes. La situation est moins évidente en Mongolie, mais le pays est identifié comme un potentiel eldorado de l'uranium. On trouverait sur ce territoire les plus importantes ressources de minerais radioactifs du monde. On pourrait parler aussi du Kirghizistan, qui vient de lever le moratoire sur l'exploration de l'uranium instauré il y a 5 ans, et de la Tanzanie sur le continent africain, qui développe ses ressources avec la Russie comme partenaire privilégié. Ces quatre pays pourraient permettre d'avoir une production d'uranium moins concentré qu'aujourd'hui, mais il s'agit de perspectives à long terme. L'évolution du marché et l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine a en parallèle redessiné les routes d'approvisionnement. Le Kazakhstan, premier producteur mondial, privilégie de plus en plus des itinéraires qui ne traversent pas la Russie. En 2023, plus de 60% des exportations de Kazatomprom vers le marché occidental ont pris le corridor qui passe par la mer Caspienne et qui connecte les principaux centres de production kazakh à la Méditerranée. Une autre route est également appelée à devenir de plus en plus essentielle pour assurer le commerce d'uranium, cette fois-ci entre le Kazakhstan et la Chine. La construction d'un entrepôt logistique dans la ville frontalière d'Alachankou d'ici 2026 matérialisera les nouvelles ambitions de ce corridor de l'uranium hautement stratégique.
Marie-Pierre Olfon.
RFI Matin.
Chaque jour, 20 minutes de reportage à écouter sur RFI. Votre rendez-vous à 11h10 et 19h40, temps universel. Et tout de suite, un extrait de ce grand reportage qui nous emmène aujourd'hui aux États-Unis, à 5 jours de l'investiture de Donald Trump. Ce sera le 20 janvier, à 4 jours même, une date que les quelques 11 millions de migrants illégaux présents dans le pays ont bien en tête, car dès son premier jour à la Maison-Blanche, le milliardaire républicain a promis un programme d'expulsion massive. Le Texas s'y prépare déjà. Les autorités commencent à mettre en place des infrastructures pour mettre en œuvre ces expulsions. Les organisations non gouvernementales, elles, promettent la résistance à ce projet jugé inhumain, sans parler des migrants concernés qui craignent de devoir quitter un pays où ils ont fondé leur famille et refait leur vie. Le retour de Trump, le Texas se prépare à l'expulsion massive de migrants. C'est un grand reportage signé Harim Leipold. En voici un extrait.
Je m'appelle Don White, je suis shérif adjoint du comté de Brooks. Mon travail consiste à chercher ici, sur les terrains des grandes propriétés, les personnes qui ont passé la frontière illégalement et qui sont mortes. Je récupère les corps et j'aide aussi au processus d'identification.
Nous sommes à environ 140 km au nord de la frontière mexicaine.
Nous sommes ici dans le centre du comté de Brooks. Là, nous nous approchons d'une ligne électrique aérienne. Sa tranchée est souvent utilisée par les migrants car elle donne une direction. Mais l'inconvénient, c'est que le chemin est très sableux. Vous vous y enfoncez comme si vous marchiez sur une plage. C'est donc très fatigant.
Don White, presque tous les jours, il part à la recherche de migrants. Son équipement est impressionnant.
Je prends toujours mon fusil et mon sac à dos qui pèse 13 kilos, 4 litres d'eau pour moi et pour mon chien et 7 litres supplémentaires. J'ai un kit d'urgence avec des injections au cas où. Et là, c'est un filet. Il me permet de transporter un squelette entier. Je l'accroche alors à mon sac à dos. Et j'ai aussi une petite bâche dépliable. Elle me permet d'y envelopper un corps et de le glisser sur le sol.
Et quand est-ce que vous avez trouvé pour la dernière fois une personne décédée ?
C'était la semaine dernière. J'ai trouvé une partie d'un squelette. Presque tous les gens que je trouve sont déjà morts. Le plus souvent, ils sont morts de soif. Parfois, ils sont blessés, donc ils ont des difficultés à marcher. Les passeurs les laissent alors ici, dans la broussaille. Et ils sont perdus, ils ne savent pas où aller. Et après quelques jours sans eau, ils meurent.
En été, il peut faire plus de 50 degrés à l'ombre dans cette partie de Texas. Et comme les passeurs confisquent leurs téléphones aux migrants, ceux-ci ne peuvent pas appeler les secours en cas d'urgence. Nous descendons de la voiture et pénétrons dans la broussaille. La végétation est dense. Sous un arbre, nous tombons sur les restes d'une Bible en espagnol et une bouteille d'eau vide. Nous sommes ici tout près du checkpoint de Falfurrias. Toutes les voitures qui vont vers le nord du Texas sont contrôlées.
Oui, les passeurs les font sortir 2 kilomètres avant le checkpoint. Les migrants s'avancent dans la brousse vers l'ouest ou vers l'ouest. Ils contournent les contrôles et ils sont censés rejoindre la route après le checkpoint. Autre possibilité, ils sont laissés par les passeurs sur une autre route. Il leur faut alors 3 jours pour remonter ici en traversant la broussaille. Ça, c'est un chemin très dur.
Ce grand reportage d'Arim Lipold à écouter en intégralité aujourd'hui sur RFI à 12h10 et à 20h40 hors de Paris. À retrouver aussi sur toutes les plateformes d'écoute et notre site rfi.fr. On reste ensemble, RFI Matin, dans une minute, le journal international de Martin Guez, suivi de notre grand invité Thierry Breton, ex-commissaire européen. Entretien avec Arnaud Pontus à 7h15.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Togo, 2025 sera marqué par le 20e anniversaire de l'accession au pouvoir de Fornia Simbe, l'occasion pour 4 partis de l'opposition et le Front Citoyen Togo Debout de réclamer une alternance politique. Ce scénario est-il réalisable?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Savez-vous que le gombo peut aussi pousser en Île-de-France ? Ce légume tropical est consommé en Europe par les populations issues de l'immigration. Une expérimentation a été menée par une ONG avec pour objectif d'intéresser la diaspora africaine à l'agriculture en France.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.